Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1755, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes est l'un des textes majeurs de la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau. Cette édition le fait précéder du discours sur les sciences et les arts, paru en 1750, qui avait déjà mis en cause l'identification spontanée du progrès culturel au progrès moral. Dans le second discours, Rousseau répond à la question de l'Académie de Dijon sur l'origine de l'inégalité et sur sa compatibilité avec la loi naturelle. Il ne propose pas une histoire factuelle des premiers peuples, mais une reconstruction philosophique destinée à distinguer ce qui relève de la nature humaine de ce qui résulte des institutions. Son enquête suit la transformation progressive d'individus relativement indépendants en membres de sociétés marqués par la comparaison, la propriété, la dépendance et la domination. L'ouvrage fournit ainsi une critique généalogique de l'ordre social, tout en préparant les interrogations politiques développées plus tard dans du contrat social. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, deux discours pour dissocier progrès des arts et progrès moral. Le rapprochement des deux discours éclaire la continuité de la critique rousseauiste. Dans le premier, Rousseau conteste l'idée selon laquelle le développement des sciences et des arts améliore nécessairement les êtres humains. Son point N n'est pas que tout savoir ou toute création soit intrinsèquement mauvais. Il vise plutôt les effets sociaux d'une culture soumise au luxe, au goût de paraître et à la recherche de distinctions. Les raffinements peuvent rendre les relations plus polies tout en affaiblissant la franchise, l'indépendance de jugement et la vertu civique. Le second discours déplace cette intuition sur un terrain plus fondamental. Il cherche les conditions par lesquelles des différences initialement limitées deviennent des hiérarchies durables. La civilisation n'y est donc pas simplement condamnée comme un bloc homogène. Rousseau analyse les mécanismes par lesquels les besoins artificiels, la comparaison des rangs et la dépendance envers autrui transforment les conduites. Lire les textes ensemble permet de comprendre que sa cible principale est moins la connaissance que son inscription dans un ordre social inégalitaire. Cette articulation reste utile pour examiner les discours contemporains qui assimilent automatiquement innovation, sophistication et amélioration morale ou politique. Deuxièmement, l'état de nature comme outil pour penser ce qui est socialement acquis. L'état de nature chez Rousseau n'est pas la chronique d'une époque identifiable ni le portrait ethnographique d'un peuple réel. C est une hypothèse de méthode. En imaginant des humains avant les institutions, les lois, la propriété et les hiérarchies établies, Rousseau veut retirer les préjugés hérités de la vie sociale afin de poser à nouveau la question de l'être humain. L'individu naturel est décrit comme relativement solitaire, guidé par l'amour de soi, soit le souci de sa conservation, et par la pitié répugnance à voir souffrir un semblable. Ses besoins sont simples et ses dépendances limitées. Cette construction permet à Rousseau de contester l'idée que la rivalité permanente, le désir de domination ou l'obéissance aux riches appartiendrait nécessairement à la nature humaine. Elle ne signifie pas que l'humain naturel possède déjà une morale civique achevée. Au contraire, les facultés distinctives de l'espèce se développent progressivement. L'intérêt philosophique de cette hypothèse réside dans la séparation entre dispositions humaines et arrangements historiques. Elle invite le lecteur à traiter les institutions existantes comme des constructions révisables plutôt que comme la conséquence inévitable de différences naturelles. Troisièmement, perfectibilité, besoin nouveau et naissance de la comparaison sociale, Rousseau attribue à l'humain la perfectibilité, faculté de se transformer, d'apprendre et de développer de nouvelles capacités. Cette faculté explique à la fois l'adaptabilité humaine et la possibilité d'une dégradation sociale. Quand les circonstances conduisent les individus à coopérer plus régulièrement, à former des habitudes et à vivre davantage sous le regard d'autrui, les besoins ne se limitent plus à la conservation. L'estime, la reconnaissance et la préférence deviennent des enjeux. Rousseau distingue alors l'amour de soi, rapport élémentaire à sa propre conservation, de l'amour propre, passion relative, qui dépend du jugement des autres. L'amour propre rend possible la recherche de considération, mais aussi la jalousie, la honte, la rivalité et la volonté de surpasser. L'inégalité ne provient donc pas seulement d'une distribution matérielle inégale. Elle s'enracine dans une économie morale de la comparaison, où chacun mesure sa valeur à des signes de prestige et à l'opinion publique. Cette analyse donne au texte une portée durable. Elle aide à comprendre pourquoi des inégalités de statut peuvent persister même lorsque les besoins vitaux sont couverts. Et pourquoi la quête de reconnaissance peut soutenir des formes de dépendance qui ne reposent pas uniquement sur la contrainte directe. Quatrièmement, la propriété privée comme tournant institutionnel de l'inégalité politique, le passage à la propriété constitue le point de bascule le plus célèbre de l'argumentation. Rousseau ne prétend pas que toute possession personnelle soit immédiatement illégitime. il examine plutôt le moment où l'appropriation durable de la terre et des ressources devient reconnue par les autres, puis protégée par des règles. À partir de là, les différences de talent, de force ou de chance peuvent s'accumuler et se convertir en écart de richesse, de pouvoir et de sécurité. Ceux qui disposent de biens ont intérêt à faire reconnaître un ordre stable qui les préserve. Rousseau présente ainsi la naissance du droit politique sous un angle critique. Un pacte peut sembler offrir paix et protection à tous, tout en consolidant de façon disproportionnée les avantages des possédants. Les pauvres gagnent une sécurité précaire, tandis que les riches gagnent la garantie institutionnelle de leurs acquisitions. Le texte ne fournit pas encore le modèle normatif complet du contrat social. Mais il expose le problème auquel ce modèle devra répondre. Comment une association politique peut-elle être légitime si les règles initiales ont été façonnées dans un contexte de rapports inégaux? Cette généalogie oblige à distinguer la légalité existante de la justice de son origine et de ses effets. En dernier lieu, distinguer inégalité naturelle et privilège créés par les conventions, Rousseau ouvre son enquête par une distinction structurante entre deux formes d'inégalité. L'inégalité naturelle ou physique concerne notamment l'âge, la santé, la force corporelle et certaines aptitudes de l'esprit. Elle existe entre les individus, mais elle ne suffit pas à expliquer la subordination politique. L'inégalité morale ou politique, en revanche, dépend de conventions humaines. Elle se manifeste dans les privilèges qui permettent à certains d'être plus riches, plus honorés, plus puissants ou de se faire obéir. Cette distinction évite deux confusions. D'une part, reconnaître des différences de capacité ne revient pas à justifier des droits inégaux ou une concentration de pouvoir. D'autre part, dénoncer l'inégalité politique ne suppose pas d'imaginer des personnes identiques en tout point. Le problème devient celui des médiations institutionnelles qui transforment des différences contingentes en avantages transmissibles et en domination durable. Rousseau ne traite donc pas l'égalité comme une simple uniformité matérielle. Il interroge la possibilité de relations civiles où nul ne soit placé à la merci arbitraire d'un autre. Pour les lecteurs actuels, cette grille conserve une fonction critique précise. Elle demande quelles inégalités relèvent de la diversité humaine et lesquelles sont produites, amplifiées ou légitimées par les règles de propriété, de statut et de pouvoir. En conclusion, cet ouvrage s'adresse d'abord aux lecteurs de philosophie politique, d'histoire des idées et de théories sociales qui veulent comprendre une source décisive des débats modernes sur l'égalité, la propriété et la légitimité des institutions. Il convient aussi aux étudiants ainsi qu'aux lecteurs qui cherchent un cadre exigeant pour analyser les liens entre richesse, reconnaissance sociale et dépendance. Son bénéfice intellectuel principal est méthodique. Rousseau apprend à ne pas confondre l'ordre établi avec l'ordre naturel. En reconstituant de manière hypothétique la formation de la société, il oblige à demander comment des conventions apparemment protectrices peuvent aussi fixer des privilèges. La lecture demande toutefois de situer son vocabulaire et sa reconstruction dans le contexte du XVIIIe siècle. L'état de nature est une expérience de pensée, non une thèse scientifique sur la préhistoire, et certaines formulations appellent une discussion critique. Comparé à des traités qui défendent directement une constitution ou un programme politique, le discours se distingue par son geste généalogique. Il remonte aux transformations des besoins, des affects et des rapports de propriété avant de proposer une solution institutionnelle. La présence du discours sur les sciences et les arts renforce cette singularité en montrant que la critique de l'inégalité s'inscrit dans une interrogation plus large sur les effets moraux de la civilisation. L'ensemble demeure une lecture essentielle pour penser les promesses et les coûts sociaux du progrès. Si vous souhaitez soutenir Jean-Jacques Rousseau, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.